Céphalée d'origine cervicale, une étude de cas, un article du docteur Guy Zito, physiothérapeute, Melbourne School of Health Science, University of Melbourne, Australie, dans le Kinésithérapie scientifique de mars 2012. Résumé, la céphalée d'origine cervicale ou céphalée cervicogène est une forme de céphalée provenant de la nuque suite d'un dysfonctionnement des systèmes articulaires, musculaires et nerveux de la colonne cervicale. Les kinésithérapeutes sont qualifiés dans la prise en charge des troubles neuromusculo-squelettiques et ont par conséquent un rôle important pour identifier et traiter les céphalées cervicogènes. Voici l'étude de cas d'une patiente avec une céphalée d'origine cervicale. Cette étude décrit l'histoire, l'examen physique et les approches de traitement, ainsi que le raisonnement clinique qui ont soutenu les décisions faites dans la prise en charge globale de son état. Mots-clés, céphalée cervicale, étude de cas, prise en charge kinésithérapique. Histoire. Aurélie, une comptable de 27 ans, présente depuis 4 ans des maux de tête et des douleurs à la nuque. Les symptômes ont pu être gérés jusqu'à récemment, mais se sont significativement aggravés suite à une période intensive au travail où elle a passé de longues heures devant un ordinateur. Les céphalées sont maintenant devenues fréquentes, plus intenses et ont une incidence sur son travail. Elle est à la recherche de traitements pour soulager ses symptômes et de stratégies pour une auto-prise en charge pour l'avenir. Les céphalées partent de la région sous-occipitale et se propagent aux aires frontales et rétro-orbitaires. Elles sont toujours du côté gauche et ne changent pas de côté pendant ou entre les épisodes. Elles se produisent quotidiennement, d'une durée allant de quelques heures à la journée entière, et sont d'intensité modérée à sévère. Les céphalées sont généralement accompagnées de douleurs non spécifiques et de raideurs dans les régions cervicales et thoraciques hautes. Des nausées et une légère photophobie peuvent aussi accompagner les céphalées, bien que ces symptômes soient seulement présents lors d'épisodes plus sévères. Aurélie rapporte que lorsqu'elle travaille particulièrement pendant de longues heures devant son ordinateur, elle peut se réveiller le lendemain matin avec une céphalée et une raideur du cou, mais généralement, ces symptômes apparaissent le jour même au travail. Elle est capable de rester assise devant son ordinateur pendant environ une heure avant l'apparition des symptômes. Des exercices d'étirement soulagent les symptômes au début. Si les étirements sont débutés et répétée fréquemment avant que les symptômes ne se déclenchent, elle est en mesure de continuer son travail pendant 3 heures avant que les céphalées ne deviennent assez sévères pour affecter sa concentration. Attacher ses cheveux en arrière ne lui provoque normalement pas de symptômes, bien qu'elle soit symptomatique. Les détacher lui diminue l'intensité de la céphalée. Aurélie a été impliquée dans un accident de voiture il y a 4 ans, dans lequel elle a subi un léger coup du lapin. Elle a bien répondu au traitement kinésithérapique et les symptômes se sont apaisés complètement après 3 mois. Jusqu'à il y a 1 an, Aurélie était très active, assistant régulièrement à des cours de danse de jazz et pratiquant le basketball une fois par semaine. Ses engagements professionnels ont réduit ses activités et sa seule forme d'exercice actuellement est de marcher pour aller et revenir de son travail. Examen clinique, posture. Aurélie est une femme de taille et de poids moyen, avec de bons alignements de la tête, du cou et du thorax en position debout. Cependant, assise, elle tend à se voûter et a une évidente position en avant de la tête ainsi qu'une symphyse thoracique et lombaire. Les ceintures scapulaires sont antériorisées en sonnette interne et légèrement élevées. Les muscles pectoraux sont tendus et un peu hypertrophiés. Test des mouvements. Les tests des mouvements cervicaux sont les suivants. Flexion, amplitude complète, pas de douleur. Extension, amplitude complète, pas de douleur. Le mouvement se passe de manière prédominante de la partie supérieure à la partie moyenne de la région cervicale. Flexion du rachis cervical supérieur. Amplitude complète. Tension ressentie en sous-occipital, extension du rachis cervical supérieur, amplitude complète, pas de douleur. Rotation gauche, 3/4 d'amplitude, raideur, mais pas de douleur en fin d'amplitude, bien qu'un inconfort marqué apparaisse lorsqu'une surpression en inclinaison gauche est combinée à la rotation. Rotation droite, 7 huitièmes d'amplitude, raideur, mais pas de douleur en fin d'amplitude. Rotation gauche, C1 sur C2. Raideur et léger inconfort sous-occipital à gauche. Rotation droite, C1 sur C2. Certaines restrictions génères, pas de générales, mais pas de douleur. Inclinaison gauche, un tiers d'amplitude. Le mouvement se passe dans le rachis cervical inférieur, pas de douleur. Inclinaison droite, un demi d'amplitude, raideur importante et légère douleur au-dessus de la région cervicale supérieure gauche. Extensibilité musculaire, les muscles fixateurs de la scapula, en particulier le trapèze supérieur, l'escalène et le grand pectoral, sont un peu tendus et ce, plus à gauche qu'à droite. Examen manuel. L'examen manuel des segments cervicaux supérieurs confirme que les articulations zygapophysaires C1 sur C2, C2 sur C3 sont significativement et modérément plus limitées à gauche qu'à droite. La palpation de C1 sur C2 du côté gauche provoque une douleur du cou d'intensité modérée et une légère sensation sur la partie gauche du front. La palpation C2 sur C3 à gauche provoque une douleur locale du cou à gauche. Le niveau cervico-thoracique et les trois niveaux thoraciques supérieurs sont modérément hypomobiles. Test du contrôle neuromusculaire. Les mouvements scapulaires répétés, adduction, abaissement et rotation externe, révèle des recrutements anormaux des muscles grand dorsal, rhomboïde et élévateur de la scapula. Ceci est plus marqué à gauche qu'à droite. Les tests d'activation et de capacité de maintien de la contraction des fléchisseurs profonds du cou lors d'une flexion cervicale supérieure lente et contrôlée en utilisant un appareil biofeedback de pression confirment qu'Aurélie a un mauvais contrôle neuromusculaire des muscles profonds. Elle est incapable de tenir une contraction constante de ses fléchisseurs profonds du cou à une pression au-delà de 24 mm de mercure. Prise en charge. Remarque, l'atteinte amenant Aurélie à se plaindre à deux composantes, l'une articulaire, l'autre musculaire. Les deux systèmes nécessitent donc d'être abordés. Ces symptômes sont devenus chroniques et sont liés à ses habitudes de travail. Le problème ne peut pas être résolu à court terme et par conséquent, la prise en charge consistera en quatre phases. Premièrement, traitement symptomatique des dysfonctionnements articulaires. Deuxièmement, rééducation neuromusculaire. Troisièmement, correction posturale, conseil ergonomique. Quatrièmement, auto-prise en charge. Première séance, le traitement initial consiste en des mobilisations passives C1 sur C2 et C2 sur C3. Remarque, nous pouvons nous demander si la mauvaise fonction musculaire contribue au dysfonctionnement articulaire en C1 sur C2 et C2 sur C3 ou l'inverse, notamment de par son antécédent de blessure lors d'un coup du lapin. Comme Aurélie éprouve actuellement des céphalées quotidiennes, un bon point de départ serait de traiter les dysfonctionnements articulaires afin d'établir si le traitement influence sur la fréquence et ou l'intensité de la pathologie. Lors de la réévaluation, elle déclare que son cou semble plus libre. Rotation gauche, amplitude complète et sans douleur. Inclinaison gauche, 3/4 d'amplitude, pas de douleur. Inclinaison droite, 3/4 d'amplitude, bien que cela reste légèrement douloureux au-dessus de la région cervicale supérieure gauche. Deuxième séance, une semaine après, Aurélie rapporte une aggravation de ses sensations au niveau du cou pendant environ 2 heures après le traitement, puis cela s'est calmé. Elle a conservé la plupart de la mobilité pendant environ 2 jours, puis cela s'est de nouveau enraidi. Elle n'a pas eu de céphalée pendant 2 jours, même en continuant à exécuter ses obligations normales. Les céphalées ont commencé à revenir au cours des 3 derniers jours, mais ne semblaient pas être aussi sévères qu'avant et n'irradiaient pas au-delà de la région occipitale. Lors de la réévaluation, rotation gauche, 3/4 d'amplitude, raideur. Inclinaison gauche, 3/4 d'amplitude, pas de douleur. Inclinaison droite, 1/3 d'amplitude, raideur et légère douleur au-dessus de la région cervicale supérieure gauche. Remarque, à ce jour, le traitement a abordé la composante articulaire. Comme ceci nécessite plus d'attention, le traitement manuel est répété. Pour faire évoluer le traitement, le dysfonctionnement musculaire est abordé en apprenant à Aurélie des exercices des fléchisseurs profonds du cou. Lors de la réévaluation après le traitement manuel, rotation gauche amplitude complète et sans douleur, inclinaison gauche amplitude complète et sans douleur, inclinaison droite 3/4 d'amplitude, bien que cela reste légèrement douloureux au-dessus de la région cervicale supérieure gauche. Les exercices des fléchisseurs profonds du cou ont été enseignés comme ceci. Avec l'aide d'un appareil de biofeedback de pression, Aurélie a appris à contrôler la flexion cervicale supérieure dans une position couchée. Elle a appris à réaliser des exercices de hochement de tête avec son rachis cervical supérieur. Elle est également encouragée à surveiller les contractions indésirables des muscles superficiels du cou en palpant les muscles sternocléido-mastoïdiens. L'exercice est réalisé 10 fois, 3 fois par jour en maintenant la position 10 secondes. Troisième séance, 10 jours après. Aurélie rapporte qu'elle n'a pas eu de céphalée durant toute la semaine et qu'elle sentait son cou libre. Elle a conservé la plupart de la mobilité pendant environ 2 jours, puis son cou a recommencé à s'enraidir. Lors de la réévaluation, rotation gauche, amplitude complète, pas de douleur. Inclinaison gauche, amplitude complète, pas de douleur. Inclinaison droite, 3/4 d'amplitude, raideur et légère douleur au-dessus de la région cervicale supérieure gauche. Remarque, la réponse au traitement est comme ce qui était attendu. Le traitement manuel est maintenu constant et en visant à restaurer l'amplitude complète de la région cervicale. Les exercices ont évolué, les étirements musculaires sont maintenant inclus dans le programme. Aurélie a été très impliquée dans ces exercices et est maintenant capable de tenir 10 contractions constantes de ses fléchisseurs profonds du cou pendant 10 secondes. Les exercices ont évolué visant à maintenir les contractions de façon un peu plus forte. De nouveau, les exercices sont à réaliser 10 fois, 3 fois par jour, en maintenant la position 10 secondes. Les étirements musculaires du trapèze supérieur d'escalène et du grand pectoral ont été introduits, avec pour résultat une amplitude d'inclinaison droite devenue complète et sans douleur. Quatrième séance, 10 jours après, Aurélie rapporte à nouveau une absence de céphalée durant toute la semaine et qu'elle ressentait son cou libre. Lors de la réévaluation, rotation gauche, amplitude complète, pas de douleur. Inclinaison gauche, amplitude complète, pas de douleur. Inclinaison droite, amplitude complète, légère raideur au-dessus de la région cervicale supérieure gauche. Aurélie est maintenant capable de maintenir 2 contractions constantes de ses fléchisseurs profonds du cou pendant 10 secondes avant que la fatigue n'apparaisse. Remarque, les symptômes articulaires se sont améliorés et le traitement se concentre davantage sur les exercices des fléchisseurs profonds du cou. Le traitement manuel des articulations intervertébrales est arrêté et consiste seulement maintenant en des étirements musculaires. La rééducation posturale pour décharger le rachis cervical est débutée. L'accent est maintenant mis sur l'introduction de stratégies d'autoprise en charge. Aurélie a appris un exercice postural assis. Après lui avoir expliqué la position neutre droite assise, il lui a été demandé de placer doucement ses scapulas vers l'arrière et le bas et de tenir la position. Cinquième séance, 3 semaines après, Aurélie rapporte qu'elle a trébuché pendant qu'elle descendait les escaliers chez elle plusieurs jours après la dernière consultation et qu'elle a eu un choc au cou. Elle a eu 4 céphalées depuis la dernière consultation, mais seulement d'intensité faible à modérée. Son cou s'est légèrement enraidi. Lors de la réévaluation, rotation gauche, 3/4 d'amplitude, légère douleur de la région cervicale supérieure. Inclinaison gauche, amplitude complète, gêne. Inclinaison droite, 3/4 d'amplitude, légère raideur au-dessus de la région cervicale supérieure gauche. Aurélie est capable de maintenir 5 contractions constantes de ses fléchisseurs profonds du cou pendant 10 secondes avant que la fatigue n'apparaisse. Remarque, en raison de la rechute subie à cause de l'accident, le cou s'est enraidi. Par conséquent, ce traitement manuel articulaire a été réintroduit afin de restaurer une amplitude complète et sans douleur des mouvements du cou. Le traitement incluant des mobilisations et étirements musculaires a permis d'atteindre encore un bon résultat symptomatique. Il n'y a pas eu de changement d'exercice, mais Aurélie a appris, en plus des étirements de ses muscles fixateurs de la scapula, et des exercices généraux de mobilité dans le cadre de l'auto-prise en charge. Sixième séance, 4 semaines après, Aurélie n'a une fois de plus pas eu de céphalée durant toute la semaine et elle a ressenti son cou libre lors des 3 dernières semaines. Elle est capable de maintenir 10 contractions constantes de ses fléchisseurs du cou avant que la fatigue n'apparaisse et elle a donc été encouragée à augmenter la difficulté des exercices. Remarque, au vu des bons résultats du traitement, l'accent est mis sur les stratégies d'auto-prise en charge. L'intervalle entre les rendez-vous a augmenté afin de contrôler l'efficacité des stratégies d'auto-prise en charge et le rôle des interventions kinésithérapiques. Septième séance, 8 semaines après, Aurélie rapporte des céphalées occasionnelles pendant les 2 mois et tout était lié au travail. Elle était capable de stopper leur évolution vers des céphalées plus importantes en faisant ses exercices et était capable de travailler de longues heures sans souffrir de répercussions. Elle est capable de maintenir 3 contractions constantes de ses fléchisseurs profonds du cou pendant 10 secondes. Avant que la fatigue n'apparaisse, il lui était demandé de continuer les exercices jusqu'à ce qu'elle parvienne à 10 contractions avec 10 secondes de maintien, puis elle peut progresser avec une intensité encore plus difficile. Elle est encouragée à essayer de réaliser ses exercices sans appareil de biofeedback qu'il y avait chez le kinésithérapeute. Remarque, en raison de son âge, de son implication et de sa motivation, Aurélie a pu atteindre les résultats qu'elle a eus. Tant la nature de la pathologie et de son travail que la longévité de ses symptômes suggèrent qu'elle pâtira de rechutes dans le temps. Et elle est donc encouragée à continuer ses stratégies d'auto-prise en charge, surtout aussi longtemps qu'elle continuera son travail sédentaire. Aucun autre rendez-vous n'est pris, cependant il lui est conseillé de demander de l'aide si les symptômes réapparaissent et qu'elle n'est pas capable de les soulager elle-même.